beaucoup. Merci à Ivan aussi de m'avoir convié à participer à cette journée d'études dont la préparation a été extrêmement intéressante. Malheureusement, je n'ai pas pu expérimenter la séquence pédagogique que je vais vous présenter. Ce sera pour l'année prochaine. Donc évidemment, toutes les réactions que vous pourrez avoir seront bien évidemment un enrichissement pour les étudiants qui travailleront là-dessus l'année prochaine. Donc, je vais commencer par cadrer un petit peu de manière théorique ce qu'est une théorie du complot, comment elle fonctionne et quelles sont ses origines et ses liens avec, évidemment, la propagande djihadiste. Et après, je présenterai la séquence pédagogique que j'envisage pour donc des étudiants. Une séquence pédagogique qui se déroulerait plutôt au deuxième semestre, qui serait d'une durée d'une dizaine d'heures de TD ou TP. Alors, avant de parler de théorie du complot, il faut expliquer un petit peu ce qu'est le conspirationnisme, qui est, je donne la définition de Rudi Reichstag, qui est notamment un des fondateurs de l'Observatoire du conspirationnisme, et qui l'a défini comme, qui définit cette tendance comme la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement ou d'un fait jugé néfaste à un inavouable complot, dont les auteurs présumés conspireraient dans leur intérêt à tenir cachée la vérité. Et donc, de cette tendance conspirationniste naissent des théories du complot, qui sont en réalité des récits alternatifs qui prétendent bouleverser la connaissance que nous avons d'un événement et concurrencer les versions officielles. Ces théories s'emparent de faits assez variés, décès de personnalités, accidents industriels, catastrophes naturelles, attentats, etc., jusqu'à des phénomènes insolites, des phénomènes naturels. Leur popularité tient essentiellement à deux choses. D'abord, leur mode de diffusion sur Internet, sur lequel je vais revenir, et ce que j'expliquerai tout de suite, sur la logique à la fois très simplificatrice et totalisante de leur appareil rhétorique. Donc, Loïc Nicolas définit les cinq topics de la conspiration comme suit. Premier topic, à qui profite le crime ? Rien n'arrive par accident, rien n'est tel qu'il paraît être, tout est lié, des forces occultes tirent les ficelles et surtout qu'on me prouve le contraire. Et donc il définit la théorie du complot comme une mise en fiction qui va livrer un tout cohérent, massif et sécurisant, un récit unique qui totalisera des éléments très divers, parfois contradictoires. Et donc surtout, donc, à partir de ces cinq topics, on peut rejoindre ce que Gérald Bronner appelle l'effet fort, donc du nom d'un auteur de récits sur le paranormal. Dans l'effet fort, c'est un récit qui va consister à agglomérer des arguments et là, leur agglomération va leur donner une cohérence. Donc chacun des arguments pris séparément est très très faible, mais l'ensemble donne l'illusion d'un récit convaincant. Je vous donne un exemple très simple que j'ai lu sur quantité de sites défendant ces théories du complot. L'attentat de Charlie Hebdo est un complot parce que un des terroristes a oublié sa carte d'identité sur les lieux, parce qu'un commissaire de police de Limoges s'est suicidé le lendemain, parce que François Hollande s'est rendu sur les lieux moins d'une heure après les faits, parce que la presse israélienne aurait été la première à dévoiler l'identité des terroristes. Isolément, tous ces arguments n'ont pas de valeur, mais mis ensemble, ils créent un récit qui va rendre l'ensemble convaincant. Donc, en résumé, une théorie du complot donne une cause unique à des événements extrêmement complexes, dont les origines et les développements sont complexe, avec des indices très épars et parfois contradictoires, et joue sur un effet de dévoilement qui consiste donc à donner une cohérence à tous ces faits, des faits qui n'en avaient pas jusque-là, et qui devient crédible grâce à une scénarisation que Gérald Bronner appelle l'effet Othello, donc une narration finalement, une mise en récit qui va donner une crédibilité à ce discours. Oups. Du coup, les origines justement de ces théories du complot sont finalement assez anciennes puisqu'elles remontent à la Révolution française et elles vont prendre un tour antisémite dès la fin du XIXe siècle pour arriver au tout début du XXe siècle avec des faux textes en fait, comme le protocole des sages de Sion qui est un faux plan de conquête de la planète par les juifs et qui va servir notamment à justifier les idéologies hitlériennes ou celles des suprématistes blancs américains. Mais elles vont devenir, ces théories du complot, particulièrement vivaces au lendemain du 11 septembre. En cause, d'abord, cette nécessité de trouver une cause unique à un phénomène à la fois traumatisant et complexe, mais aussi, ce qu'explique encore Gérald Bronner, c'est lié à Internet et ce qu'il appelle la révolution du marché cognitif. ce qu'il appelle marché cognitif, c'est l'espace de diffusion des produits qui informent notre vision du monde. Donc, des hypothèses, des croyances, des informations. Et Internet va amener une massification de ce marché cognitif et du coup une plus grande concurrence entre récits officiels et récits alternatifs. Et face à cette massification, il est plus commode pour l'individu de composer justement une représentation du monde qui va être pratique intellectuellement, qui va être simplificatrice plutôt que vraie. Et donc ces divers éléments vont amener le succès, vont expliquer au moins partiellement le succès des théories du complot. Si on ajoute à ça des choses qu'on a déjà évoquées ce matin, comme les révélations d'Edward Snowden, Wikileaks, etc., la crise en gros de confiance des individus vis-à-vis des dirigeants, on est vraiment dans un terreau très propice au développement du conspirationnisme. Pour ce qui est, enfin, et j'en terminerai avec ce cadrage, des liens entre conspirationnisme et propagande djihadiste, ils sont en fait à la fois idéologiques et cognitifs. Sur le plan idéologique, les groupes comme Daesh, le Front al-Nusra, etc., Boko Haram, Acmi, vont instrumentaliser le 11 septembre et la guerre en Irak qui s'en suivit, ainsi que le mythe d'un complot israélo-américain pour exacerber le rejet de l'Occident. Mais sur un plan cognitif, ils vont s'appuyer justement sur Internet et sur les processus de diffusion de l'information sur le web. Alors Dounia Bouzar explique, donc est anthropologue du fait religieux, qui est la fondatrice du Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, explique que le recrutement par les vidéos se fait en trois temps, en réalité. Et c'est une dérive de vidéo en vidéo qu'elle explique, et une dérive que permettent aussi les plateformes comme YouTube et cette architecture très particulière où on a des liens qui nous permettent d'aller d'une vidéo à l'autre. Donc les trois temps sont les suivants. Dans une première série de vidéos, persuade le jeune qui vit dans un monde de mensonges, un monde corrompu. Ces vidéos ne sont pas nocives en elles-mêmes, c'est plus leur accumulation qui va le devenir sur des sujets polémiques comme l'écologie, la santé, l'alimentation, les finances, etc. Et qui vont donner une vision du monde où tout n'est que mensonge. Donc ça, c'est la première série. Dans une seconde série de vidéos, un deuxième stade, le jeune va être persuadé que des sociétés secrètes manipulent l'humanité. Les Illuminati, en particulier, ont un énorme succès. Et les Illuminati, en particulier, d'ailleurs, sont accusés de vouloir détruire les religions et les croyances traditionnelles, en particulier l'islam, par la création et l'implantation du sionisme. Et ces sociétés secrètes dilueraient des invocations sataniques dans des objets de la culture populaire, des shows TV, des clips musicaux, etc. Et la troisième série de vidéos va persuader le jeune que seule une confrontation avec le monde peut permettre de sauver l'humanité grâce au vrai islam. Donc c'est au niveau, nous, finalement, de la première série de vidéos, en tant qu'enseignant, qu'on peut agir pour éviter, justement, pour déjà apprendre aux étudiants à décrypter ces vidéos qui peuvent paraître tout à fait innocentes dans un premier temps. Ce n'est pas forcément une tâche aisée. L'enseignant, là, il va devoir affronter Internet. Il va devoir aussi affronter tout un panel de personnalités grand public qui sont très sensibles et très favorables à ces théories du complot. On se souvient sans doute de Marion Cotillard, mais aussi Chris Brown, Dieudonné, etc., qui œuvrent contre nous et en faveur des théories du complot. Et deuxième gros problème, et ça c'est Gérald Brunner qui l'explique, ce n'est pas le manque d'éducation qui conduit les individus à être sensibles à ces théories. Donc là, ce n'est pas une question d'éducation. Et donc ce que dit Brunner, justement, c'est que la méthodologie est la pierre d'angle de cette pédagogie. Il ne s'agit pas de transmettre un savoir, il s'agit de transmettre une méthode, un savoir-faire. Et donc il faut qu'on se départisse un petit peu du rôle de détenteur du savoir, même qu'on s'en départisse totalement, pour arriver plus à un rôle de formateur aux médias. C'est quand même là un point assez important, parce qu'il va falloir totalement évacuer la question, finalement, d'argumenter pour ou contre telle ou telle théorie. Il n'est pas question de dire que c'est vrai ou faux. La dialectique argument contre argument tournerait court. D'une part, pour les étudiants qui seraient déjà sensibles à ces récits, ça ne ferait que les conforter. Et d'autre part, pour les indécis, ça ne les amènerait absolument pas à mieux lire les images. Donc l'objectif affiché devra être d'observer, de comprendre, sans aucun jugement de valeur. Pour ce qui est de l'inscription dans les plans pédagogiques nationaux et les objectifs du semestre 2, on est complètement dans le cadre de la discipline d'expression-communication, puisque les objectifs de structurer une réflexion et de développer l'esprit critique sont tout à fait compatibles. La recherche documentaire et l'analyse de textes et d'images également. Et pour ce qui est des contenus, les synthèses de documents, l'argumentation et la production de visuels sont des supports tout à fait adaptés à ce genre de projet. Donc là, j'envisage un projet en trois grandes phases. Les deux premières phases peuvent être tout à fait interverties ou modulées. La troisième phase de réalisation, en revanche, nécessite quand même qu'il y ait eu un préalable. Je m'explique. Dans un premier temps, on travaillera sur Internet, une sorte de méthode de recherche sur Internet. Dans un second, donc ce sera ça, environ 3 heures, 2 séances. Dans un second temps, on étudiera de manière plus précise la rhétorique complotiste et le projet se terminera par une réalisation de 3 heures, enfin en tout cas une production d'étudiants qui auront à produire eux-mêmes une fausse théorie du complot. Donc pour ce qui est de la première phase de la méthodologie de recherche sur Internet, ce qui m'a incité à commencer par ça, c'est encore Gérald Bronner, décidément, qui explique que à partir des biais cognitifs, donc les biais cognitifs, ce sont des raisonnements biaisés que nous avons tous, que nous sommes tous susceptibles d'avoir en tout cas. Et il explique que ce qui va nous amener vers les théories du complot sur Internet, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une tendance qui nous amène à chercher des informations qui confirment notre idée de départ et pas les informations qui l'infirment. Donc on commencera à réfléchir avec les étudiants aux mots-clés qu'ils utilisent quand ils font des recherches Internet. Donc on commencera à parler des théories du complot, ceux qu'ils connaissent, évidemment, parce qu'ils en connaissent nécessairement, à cadrer un petit peu les notions, conspirationnisme et théorie du complot. Et ensuite, on les invitera à remplir un tableau, justement, où ils devront réfléchir et rentrer les mots-clés qu'ils utilisent pour faire une recherche sur tel ou tel complot, telle ou telle théorie du complot. Il faudra baliser l'échange en amont pour que ça ne tourne pas au débat de croyance, hein, encore une fois. Il s'agira là vraiment non pas de démontrer qu'une théorie du complot est vraie ou fausse, l'intérêt n'est pas là du tout, mais de comprendre comment elle naît, qui la diffuse et comment elle se propage. Et donc à travers cette recherche documentaire, première colonne, on va réfléchir aux mots-clés utilisés, on introduira après l'idée de biais de confirmation, le moteur de recherche utilisé, le référencement, le nom du site, l'auteur du document, quand il y a un auteur, et une très brève description du contenu. Donc on consacrera au moins 1 heure à ce temps de recherche. Et on fera une petite mise en commun en projetant les tableaux remplis. Et il apparaîtra 3 principales conclusions. Les mots-clés saisis conditionnent la teneur des résultats des moteurs de recherche. Ça paraît évident, mais il est quand même bon de le rappeler. C'est-à-dire que là, la plupart des étudiants, parce qu'il y a des expériences notamment faites par Gérard Bronner qui l'ont montré, auront ajouté à leur recherche le mot complot. Donc, il faudra quand même montrer aux étudiants que ce qu'on trouve sur Internet, ce n'est jamais que ce qu'on y cherchait déjà. Ça sera la première conclusion, et là, on pourra revenir sur cette idée de biais de confirmation. Deuxième constat, le moteur de recherche utilisé sera toujours Google. Or, il faudra aussi rappeler aux étudiants que l'algorithme de référencement de ce moteur de recherche est très opaque, d'une part, et d'autre part, qu'il est influencé par les recherches antérieures. Et donc, qu'il n'y a pas de neutralité dans nos recherches sur Internet, pas seulement de notre fait par les mots-clés qu'on utilise, mais aussi simplement parce que le fonctionnement de Google biaise un certain nombre de résultats. Et enfin, dernier constat important, les auteurs des documents sont extrêmement peu fiables. Des pseudonymes, pour la plupart, quand il y a un auteur, parfois il n'y en a pas du tout. Et pour ce qui est des sources qui sont citées sur ces sites conspirationnistes, les sources citées sont d'autres sites conspirationnistes. Donc on est dans une boucle où les informations finalement tournent en rond et donc sont très peu fiables. Donc on terminera là-dessus pour la première séance. Comment distinguer le vrai du faux finalement ? Tout vérifier toutes les informations serait extrêmement coûteux en temps, pas forcément possible. Ne croire que les versions officielles, on a vu que c'était totalement illusoire et en plus pas forcément souhaitable. Gardez quand même un minimum d'esprit critique. Mais donc le premier réflexe, ce sera de se méfier de soi-même. Comment je cherche ? Qu'est-ce que je cherche ? Et on conclura là-dessus. La deuxième séance, justement, reviendra sur cette idée de biais de confirmation. Comment je cherche ? Est-ce que mes raisonnements sont biaisés ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Et donc à travers, alors une fiche synthétique, là elle est illisible, mais c'est pour vous montrer un petit peu le type de support qu'on pourrait proposer, elle serait un peu à reprendre, hein, ce que je ferais, sur les biais cognitifs, donc je rappelle, ces schémas de pensée biaisés, qui vont induire des erreurs de jugement. Donc elle sera lue avec les étudiants, commentée, agrémentée d'exemples simples. Ce qui est important de dire aux étudiants, et ce qui est important de savoir, c'est que ces biais sont constitutifs de nombreux raisonnements que nous avons et totalement indépendants de notre niveau d'études ou de notre catégorie socio-professionnelle. Ils n'épargnent absolument personne. Et donc, pour développer et mieux comprendre ces biais cognitifs, une petite étude de cas avec des situations très simples, et dans chaque situation, on essaiera de relier le problème de raisonnement, le problème de jugement qui s'est posé, et de le rattacher à un biais. L'objectif de cette deuxième courte séance, ce sera justement vraiment d'introduire chez les étudiants l'idée que, avant même de dire que les auteurs des sites sont mal intentionnés ou que tel ou tel processus est frauduleux, leur dire d'abord, méfions-nous de nous-mêmes, comment on cherche et qu'est-ce qu'on cherche, et de la manière dont on cherche et la manière dont ces biais cognitifs, notamment le biais de confirmation, vont nous amener dans la mauvaise direction. Donc cette première phase pourrait être enrichie de nombreuses autres, activités, pardon, et on pourra en discuter par la suite. Pour la phase 2, on parlera de la rhétorique complotiste à travers notamment un corpus de documents qui sont des documents qui défendent très nettement les théories du complot. Quelques difficultés dans la constitution de tels corpus. D'abord, la qualité des textes. Pour des enseignants, c'est très très difficile de donner des textes émaillés de fautes dans un français un peu acrobatique, mais ça peut même servir presque d'argument à la piètre qualité de ces raisonnements. La plus grosse difficulté, c'est le format des articles, c'est que souvent il y a des vidéos intégrées. Alors on peut très bien envisager de le faire en salle informatique, d'analyser texte et vidéo en même temps. Moi j'ai choisi d'isoler le texte pour travailler sur les images séparément. J'ai donc sélectionné un corpus de 3 docs sur le 11 septembre, les attentats de Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre. À chaque fois j'ai pris 11 septembre et j'ai collé complot et tous les documents que vous voyez là, c'est la première page de Google. J'ai pris vraiment les premiers résultats. Donc des documents très accessibles et certainement très représentatifs de tout ce qu'on peut trouver sur le sujet. Donc on amènera évidemment les étudiants à trouver des points communs entre la manière dont les événements sont présentés. On réinvestira évidemment tout ce qu'on a pu dire sur les biais cognitifs, sur les procédés de scénarisation, de mise en récit de ces pseudo-complots. Et donc on arrivera à remplir un tableau guide de décryptage qui fasse un peu double emploi, qui permette aux étudiants d'abord d'être toujours en activité, de chercher par eux-mêmes, et en même temps qui puisse servir de guide sur la rhétorique complotiste. Donc j'ai choisi moi un certain nombre d'items assez généraux. Tous les documents vont présenter un discours de vérité avec des preuves. Tous les documents refusent les coïncidences, amalgames, corrélations et causalités. Tous les documents présentent des expressions ironiques, des questions rhétoriques, des adresses au lecteur. Donc là, on est plus dans la rhétorique pure. Des effets comme l'effet de dévoilement, l'effet Othello dont je parlais plus haut, et cible des communautés. Ces items-là que j'ai donnés, on pourrait très bien envisager avec 2 heures de plus de les faire chercher aux étudiants. C'est absolument pas impossible. Donc, on consacrera une grosse heure à faire remplir ce tableau. Voilà, le tableau une fois rempli. On voit par exemple, pour ce qui est des questions rhétoriques, expressions ironiques, on va retrouver pour le document 2 ce que je trouve fort, dans le document 3 comme c'est bizarre, comme par hasard, qui sont vraiment là l'appareil rhétorique de base de la théorie du complot. En toute fin de séance, on pourra envisager de travailler sur les images et avec notamment ce schéma qui est extrêmement populaire, on le retrouve sur des dizaines de sites et qui représenterait le nouvel ordre mondial Illuminati. Qui donc là, on ne voit pas forcément, si on voit plutôt bien. On voit donc un certain nombre de groupes extrêmement divers. On a la Banque mondiale, l'OCDE, l'OMC, la NSA, la CIA, la mafia, Interpol. Tout est relié, ça devient illisible tellement justement les liens sont nombreux, mais tout renvoie aux Illuminati et aux francs-maçons. Et donc, on amènera les étudiants à regarder cette image et à remplir la deuxième partie du tableau qui propose une étude sémiologique de l'image complotiste. Donc pour concevoir les items, là j'ai simplifié un petit peu la rhétorique de l'image de Barthes, j'ai isolé le message linguistique en message plastique, les couleurs et les formes, et les sons aussi parce qu'on travaillera sur des vidéos par la suite, le message iconique, qu'est-ce qui est représenté, et enfin le message symbolique. Pour compléter justement cette analyse d'image fixe que je propose sur le nouvel ordre mondial Illuminati, Il est intéressant, là je ne vous le montrerai pas parce que je manque un petit peu de temps, mais on pourra en parler après, de travailler sur une série humoristique de Canal+, Le Complot, qui, c'est des vidéos très très courtes d'1 minute 20, qui présentent des complots totalement loufoques, farfelus, et qui présentent plusieurs avantages. C'est très court, 1 minute 20, on peut en regarder deux en fin de séance, en plus très ludique, c'est humoristique, c'est très plaisant à regarder, mais surtout, ça reprend tous les codes visuels des vidéos complotistes. Donc c'est très intéressant pour à la fois amener quelque chose d'un peu ludique et en même temps travailler sur l'image complotiste qui va donner, en fait, on va retrouver en ayant regardé. Donc la dernière colonne, ce sera la séance 4, j'en parle juste après, mais pour l'image des Illuminati et 2 épisodes de la série, on va retrouver exactement les mêmes procédés, le même type de couleurs, des couleurs sombres, froides, sur lesquelles vont se détacher généralement des traits, des flèches de couleurs vives pour montrer cette espèce d'entrelacement, de causalité. Quand il y a de la musique, des musiques symphoniques assez sombres, assez inquiétantes, hein, puisque le but c'est quand même d'expliquer aux gens qu'on leur ment et qu'ils sont des victimes de tous ces complots. Sur les personnages, on retrouvera toujours des groupes, des agences gouvernementales, des institutions internationales. Le cadre spatio-temporel ciblera généralement les États-Unis, évidemment, Israël, le monde entier, en fait, toutes les puissances mondiales. Et donc, pour ce qui est des vidéos, on laissera les étudiants les remplir pour la séance suivante, pour que les amener aussi et forcer un petit peu à relire ce document. La séance 4 sera l'occasion d'évaluer le degré de compréhension des étudiants à ce stade du projet, à travers un document extrêmement intéressant, parce qu'extrêmement ambigu, qui est La Conspiration d'Orion. C'est un court-métrage de 20 minutes. Représente la conférence d'un orateur, je vous ai mis une petite capture d'écran, qui parle devant une toute petite assemblée plongée dans la pénombre et qui raconte comment les gouvernements américains et russes utilisent depuis des décennies les technologies extraterrestres à notre insu. Le conférencier va illustrer son propos avec des images d'archives réelles et d'autres évidemment totalement créées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, qui est évidemment une fiction, est présenté sur de nombreux sites conspirationnistes comme un documentaire. Donc l'intérêt de ce film, c'est son ambiguïté. Le titre, La conspiration d'Orion, pose un pacte de lecture d'emblée. C'est une conspiration, donc vraiment une théorie du complot au premier degré. Le mode de diffusion, donc c'est autoproduit, diffusé exclusivement sur Internet et libre de droit, est le même que les films complotistes. Et il y a cet avant-propos, en guise de générique. Plus de 50 ans de désinformation et de manipulation dans l'ombre des médias de masse ont divisé et appauvri l'opinion publique de manière à mieux contrôler tout. Ce film n'est ni une fiction ni un documentaire. Oubliez les mots ésotériques ou fantastiques, ici nous parlons de la réalité. Donc avec les mots désinformation, manipulation, contrôler tout, nous parlons de la réalité, on a quand même déjà encore un appareil rhétorique complotiste. Et durant les 20 minutes, des images, donc des fils sont présentées, des images d'archives, des références historiques, qui suppose qui côtoie pardon, des supposées photographies d'OVNI, et le tout émaillé d'explications pseudo-scientifiques. Mais l'accumulation de pseudo-preuves, leur profusion, dévoile l'aspect ironique de l'ensemble. Et quand on se penche un peu sur le travail de l'auteur, Seb Janiak, qui est également photographe et pas uniquement réalisateur, on trouve des photos qui sont retouché. Donc, il a fait par exemple cette série Dark Side of the Moon qui représente des paysages lunaires. Il n'est bien évidemment pas allé sur la Lune. Hein. Et une autre série beaucoup plus ancienne qui s'appelle Uchronie qui représente des monuments historiques mondiaux du monde entier comme détruits après une guerre nucléaire. Donc, on voit qu'il travaille en permanence sur la retouche photo et on comprend du coup un petit peu mieux ce qu'il a essayé de faire dans La Conspiration d'Orion avec cette profusion d'images d'OVNI manipulées. Donc, ce serait intéressant de montrer ces images-là aux étudiants aussi pour amener, pour enrichir leurs réflexions. Le travail qu'on leur proposera de faire autour de tous ces supports, ça pourrait être soit un débat, soit un travail écrit qui pourrait même être évalué. Quel est le message de la conspiration d'Orion? Est-ce que c'est une théorie du complot ou est-ce que c'est une parodie? Il n'y a pas vraiment de réponse définitive et c'est ça qui est intéressant. Ça va amener les étudiants à déconstruire cet objet, à l'analyser de manière précise, à réinvestir l'analyse sémiologique de l'image, à travers le message plastique, donc je le remets, le message iconique et le message symbolique. On dira bien sûr aux étudiants de ne pas négliger ni l'avant-propos, ni le paratexte du film et l'identité de son auteur. Et on les amènera aussi à compléter ce tableau pour enrichir leur réflexion. On pourra à ce moment-là insister sur quelque chose que je n'ai pas tellement développé jusque-là, c'est finalement une certaine poétique de la narration complotiste. Les récits complotistes sont séduisants parce qu'ils sont romanesques, parce que ce sont de belles histoires, bien construites, et qui nous plongent dans des mondes de science-fiction ou des thrillers politico-médiatiques extrêmement séduisants au final. Donc c'est aussi séduisant qu'une belle histoire peut l'être, et donc c'est là-dessus aussi qu'on pourra terminer cette troisième séance. On attaque donc la dernière phase du projet, et je terminerai là-dessus. Il s'agira de les amener, après, pour justement remobiliser tous les acquis des deux précédentes phases, à inventer eux-mêmes une théorie du complot. Humoristique, évidemment, plus dans la veine de la série de Canal+, dont je parlais tout à l'heure, pour rendre la chose attrayante, et puis aussi parce que la démarche critique sera favorisée par une certaine liberté dans l'humour. Donc on proposera une petite méthodologie, donc créer une théorie du complot, il faut en choisir une, elle peut être reposée sur une théorie déjà existante, Illuminati, reptilien, que sais-je. Rassembler un ensemble de signes de ce complot, et plus ces signes sont sans rapport les uns avec les autres, mieux ce sera. Créer le scénario pour relier ces signes comme s'il s'agissait de preuves. Et enfin, utiliser les tableaux remplis sur la rhétorique et la sémiologie de l'image complotiste pour créer tout l'habillage de cette théorie. Les preuves de ce complot inventé pourront être évidemment d'ordre divers, soit des événements historiques, des actualités, même des micro-événements à l'IUT, voire dans le groupe de TD. La forme à donner à la présentation pourra être soit un exposé avec support visuel, l'idéal ce serait effectivement une vidéo, soit un montage d'images, une enquête caméra à l'épaule, pourquoi pas voir de l'animation pour les étudiants les plus à l'aise avec ces supports, et des présentations animées de type Prezi qui permettent tout à fait de mettre en place ce genre de choses. Finalement, ce qu'on pourrait chercher à faire avec ce type de projet, c'est de mettre l'étudiant dans la posture du moraliste qui châtie les mœurs en riant, qui va utiliser une construction, une réalisation humoristique, mais pour décrypter et déconstruire les procédés de rhétorique et visuels des théories du complot existantes. Et la toute dernière séance, la séance 6, les étudiants présenteront leurs travaux, donc leur théorie du complot, et après feront une petite intervention pour expliquer leur démarche critique et leur choix rhétorique et visuel. L'intérêt ici, ce qui sera valorisé, c'est vraiment la démarche critique, les outils mobilisés pour construire ces films ou ces documents visuels. On attendra aussi qu'ils réinvestissent un peu les biais cognitifs, même si c'est assez technique, assez compliqué, mais que quelques-uns puissent être retrouvés. Et donc, c'est par une production, finalement, par une construction, qu'on terminera ce projet de déconstruction de l'image de la rhétorique complotiste. Donc, je terminerai là-dessus. Et en guise de bilan, deux ou trois petits constats rapides. Détruire les théories du complot, c'est illusoire. Les déconstruire, c'est possible. Parce que, justement, en déconstruisant, on évite l'écueil de la confrontation des arguments. Donc, un peu impossible et de toute façon illusoire de contrer frontalement les discours, mais il faut interroger, d'une part, les mécanismes psychosociologiques qui amènent le succès de ces théories, et d'autre part, examiner leur structure et leur mode de diffusion. Deuxième constat, le travail de documentation pour un tel projet est considérable. Donc c'est très très bien qu'on puisse le mutualiser. Et surtout, c'est vrai que ce serait, à mon avis, très intéressant de pouvoir mener des actions de sensibilisation, de formation des enseignants. Parce que pour que ces projets soient efficaces, il faudrait qu'ils soient systématisés ou quasi systématisés pour prendre vraiment de l'ampleur. Et dans cette idée-là, je me suis permis de faire quelques petites propositions. Il pourrait être intéressant de créer, à partir du projet de réalisation justement de théorie du complot fantaisiste, des concours de vidéos, inter-IUT par exemple, mais aussi des choses un peu plus sérieuses, la création d'un réseau de partenaires, par exemple, ou des cycles de conférences à destination des étudiants et des personnels d'ailleurs. Quelques pistes aussi de réflexion collective, parce que ce n'est que comme ça, en mobilisant les associations étudiantes, les équipes enseignantes de toutes disciplines, que nous arriverons aussi à faire perdre du terrain à ces théories. Et donc, je termine rapidement avec quelques éléments de bibliographie, mais qui seront donnés à part. Voilà les travaux pour un certain nombre de choses pour préparer cette séquence. Et dans une deuxième partie, des supports pour travailler avec les étudiants, donc en ligne ou de différentes manières. On peut penser aussi à des séries comme X-Files qui pourraient donner des supports assez intéressant. Voilà, je termine.